Chers auditeurs, c'est l'heure de votre nouvelle émission La Bougeotte présentée par Christian Cayol. Et en même temps, j'ai envie de dire bon anniversaire.
Bonjour à tous, bonjour Francis, merci. Oui, effectivement, on a terminé la troisième année, on commence la quatrième pour le mois de janvier 2019. Donc en même temps, bon anniversaire et puis...
Bonne année.
Bonne année à toi Francis, à tout le monde.
À tout le monde. Ouais, 37e émission, 4 ans, c'est beaucoup. Merci de ton suivi, c'est pas rien. Et merci de toutes tes balades en France. Parce qu'on rappelle, le dicton, c'est quoi?
Bouger.
Mais bouger.
Mais bouger en France, effectivement, oui, on a tellement de choses à découvrir, à voir, donc il ne faut pas hésiter, il faut rester en France. Il faut aussi aller à l'étranger, bien sûr, mais commençons par connaître notre pays et notre patrimoine.
Et souvent, on va chercher très loin ce qu'on a à côté, il ne faut pas l'oublier.
Ça, oui, c'est le cordonnier le plus mal chaussé.
Voilà, on le dit. Et aujourd'hui, donc, tu nous amènes où? Pas très loin de chez nous, en fait.
Voilà, on met le cap sur le cap Cire.
Voilà.
Donc, que tout le monde connaît, certainement. Enfin, si on ne connaît pas, pour faire simple, c'est la région de Font-Romeu.
Voilà, tout à fait, ouais.
Voilà, le paradis des montagnards.
Nos belles Pyrénées. Partie de nos belles Pyrénées.
Voilà. Nombreux lacs, des grottes, des forêts, des chaos.
Un menhir géant, la totale. On en parlera.
On peut en parler après, oui. Une faune et une flore d'exception, avec plus de 50 espèces végétales endémiques. Ouais. Hein. Et son plus haut sommet, le Carlite.
Et oui.
Qui ne fait pas 3000. Bon, tant pis.
Presque, allez.
Voilà. Alors, pour bien faire, il faudrait, on parle du Cap Cire, mais moi, on va s'étendre un petit peu. Il faudrait identifier tous ces hauts plateaux de la région, le Haut-Conflent, le Bas-Conflent, le Val-Espire, la Cerdagne et d'autres dont j'oublie le nom. Nous, on ne les connaît pas trop, on ne les connaît pas bien, on n'arrive pas à les distinguer. Mais les gens originaires, eux, savent très bien le faire. Voilà. En bout de chaîne... À l'autre bout, donc, côté mer, on a le point dominant, c'est le Canigou. Et c'est la montagne sacrée des Catalans. 2784 mètres, lui. Et puis, qui traverse tout ça, un Canari, ou plutôt le train jaune.
Le train jaune, le fameux train jaune.
Le Canari qui traverse et qui relie tout. Il porte les couleurs du pays et il est le symbole. Il en est le symbole. Mais notre périple va s'étendre encore plus que ça. Le fil conducteur, ce sera les sources chaudes. Les bains naturels de la région et certains remontent aux Romains qui les ont utilisés. Mais pas que encore, j'aimerais aussi vous faire connaître, ou mieux connaître, le baroque catalan. Voilà, donc commençons par ça et commençons par découvrir. Alors bien sûr, ce dont on parle en ce moment, pour compléter notre émission, je vous conseille d'aller voir les images d'une vidéo que j'ai faite pour vous.
Qui s'appelle
Cap sur le Cap Cire, qui est en lien... sur le site de Radio Galaxy.
Et ton site à toi.
Et mon site perso, Rando VTT Vidéo, que vous certainement vous devez connaître maintenant. Alors donc, je vous amène découvrir de véritables chefs-d'œuvre dans des petites églises romanes ou dans des édifices religieux. Du XVIIe au XVIIIe, un art originaire d'Italie se propage, le baroque. Alors, c'est pompeux, c'est assez exubérant, c'est surchargé, souvent recouvert de nombreuses dorures. Bien sûr, tout ça, c'est polychrome aussi. Hein. Et c'est un mouvement artistique qui vient en réponse à la réforme protestante. Et ça correspond donc à un renouveau religieux intense dans cette période trouble, et il faut célébrer l'Église. Ici, en Catalogne, ce sont les retables qui seront la forme la plus aboutie. Les retables, vous savez, c'est cette pièce verticale qui est en arrière de la table autel. Et ici, on en a de nombreux qui sont en bois doré, avec des couleurs intenses et parfois des milliers de statues. Ça va orner les églises, et aussi des panneaux de bois sculptés, dorés, et qui racontent la vie de personnages en rapport avec le culte. Alors, je vais vous parler de l'église d'Espira de Conflent. C'est une église du XIe siècle, une des plus belles. Ne pas rater aussi, si vous avez l'occasion, aller à Prades. Donc, c'est un petit patelin, Espira de Conflent. L'église abrite un riche mobilier baroque, dont 5 retables et 10 panneaux de bois sculptés, peints, qui sont du XVIIe. Alors, on retiendra le massacre des innocents, qui est inspiré par la peinture de Rubens, dont on connaît. Et puis, il y a la scène et la mise au tombeau. On trouve aussi une Vierge noire à l'enfant, et aussi reliquaire, parce que le dos est creux et servait de reliquaire. Elle est en bois sculpté polychrome. Elle est du XIIe siècle. Elle est retrouvée, comme beaucoup, dans la terre. Elle est exposée dans cette église. Alors pourquoi, en Catalogne en particulier, mais aussi pas que, pourquoi les vierges sont souvent noires? Eh bien, on peut penser que cette noirceur, elle est due à la fumée et au dépôt de suie dû à l'utilisation de cierges. C'est pas un bois qui est noir, en général. Donc on a cette vierge noire. On en retrouvera une, on en reparlera. À voir aussi dans le village, un sarcophage wisigoth qui a été trouvé lors de travaux autour de l'église. Et à l'entrée du village, une fontaine dite fontaine du miracle. Même si personne ne sait plus pourquoi, en quoi consistait le miracle. Elle s'appelle toujours comme ça. Elle aurait pu faire partie d'un livre
lequel
que tu connais très bien, hein, que tu as écrit, et qui s'appelle « Mille lieux légendaires et mystérieux des Pyrénées ». Elle aurait pu en faire partie.
Oui, effectivement, mais ça aurait fait 1001 sites et ça ne va plus.
Bon.
Merci quand même.
Mais voilà. Ah, par contre, là, on va parler maintenant d'une chapelle. Qui est dans ce livre-là en question? Comme quoi, tu vas pouvoir faire l'émission, Francis.
Pas loin.
La chapelle de l'Ermitage, à Font-Romeu. C'est un endroit où il y a une exposition de nombreux ex-voto. Cette chapelle est décorée de magnifiques retables, là encore aussi baroques. Et selon la légende des vierges noires catalanes, en bois, qui sont trouvées dans la terre ou dans l'eau, ou encore dans une grotte, liée à un culte palien. Celle-ci, elle sera retrouvée dans la terre, selon la légende, à l'endroit où un taureau gratté et où est sortie une source.
Voilà.
Hein, ne me trompe pas.
Non, c'est
merci.
Ça.
Et sous la chapelle, donc, si vous y allez, vous avez la chapelle, et un petit peu plus bas, vous avez cette grotte où coule la fontaine. Font-Romeu, en occitan, c'est la fontaine des pèlerins.
Voilà. Ouais.
Au XVIIe siècle, une piscine miraculeuse permettait aux malades de s'immerger. Voilà l'explication des ex-voto, parce que la source était miraculeuse. Une statue romane du XIIe siècle, donc la Vierge. Elle est descendue en procession en septembre jusqu'à l'église d'Odeio, non loin. Elle y reste tout l'hiver, elle ne sera remontée que pour la Trinité, et restera tout l'été à Font-Romeu, à cette chapelle. Autre lieu. Je crois que tu vas connaître encore.
Peut-être.
À croire que j'ai copié sur ton bouquet.
Ah, ça se pourrait, hein. Ça se pourrait, ça.
La Sainte Tombe d'Arles-sur-Tech.
Ah oui.
Un sarcophage long d'un mur de l'église, il se remplit mystérieusement d'eau. Mm. Les scientifiques parlent condensation. D'autres évoquent un miracle qui a été confirmé par les vertus bienfaisantes de l'eau, qui n'est recueilli qu'une fois par an, le 30 juillet, lors de la fête de Saint-Abdon et de Saint-Sénat. Tout aurait commencé il y a longtemps. Arles-sur-Tech était touché par la lèpre et était infesté de bêtes féroces, les sémiots. Une sorte d'animaux diaboliques, lions, dragons, ours, singes, monstrueux, qui répandaient la terreur, enlevaient les enfants, dévoraient le bétail. Le curé part à Rome chercher des saintes reliques, persuadé que c'était le seul moyen pour s'en sortir. Pour faire le chemin retour, en toute quiétude et pas être embêté avec ses reliques, il avait caché les reliques dans un tonneau rempli d'eau. À son arrivée au village, les cloches se mirent à sonner toutes seules, les bêtes féroces se sont enfuies, et pour se débarrasser de son eau, il l'a versée dans le tombeau, et ce fut le début de guérison. Plus de lèpre, plus de malades, plus... Les moines comprirent l'intérêt financier, et ne donnaient plus de l'eau, mais il l'a donnée contre de l'argent. Mmh. Et les saintes reliques, elles sont où? Alors, là, c'est plus compliqué. Elles sont plus à Arles-sur-Tech. Alors, pour certains, elles sont restées pendant des siècles à Soissons, dans le monastère Saint-Médard, où elles furent brûlées par les Huguenots. Pour d'autres, la ville de Florence prétend les posséder depuis l'an 370. Mais c'est Rome, soi-disant, qui les détient. Elle aussi, elle serait à Saint-Marc, depuis le pape Grégoire IV. Décidément, tout ça, c'est bien flou. En 1960, les scientifiques ont tenté vainement d'expliquer le mystère de ce tombeau qui se remplit d'eau et qui parfois déborde. En 1910, une récompense de 1000 francs de l'époque, déposé chez un notaire pour toute personne capable d'expliquer le phénomène. Pour l'instant, personne n'a trouvé. Avis aux amateurs.
Voilà, aucune explication.
Voilà, c'est le mystère, un de plus.
Un de plus. Et il y en a dans les Pyrénées, mystère.
Maintenant, on change un petit peu d'endroit. Une autre abbaye, l'abbaye bénédictine d'Allées-les-Bains, construite à la place d'un monastère datant de 873. Tout ça, vous voyez des images sur ma vidéo.
Oui.
À la période cathare, lors de la croisade des Arabigeois, la population et les moines furent fidèles au vicomte de Trincavel, qui était favorable au cathares. Ces derniers furent excommuniés. Par contre, l'abbaye ne fut pas dévastée, c'est bien rare. Ce ne fut pas le cas lors des pillages des protestants. L'église fut dépouillée et dévastée en 1577. Il fallut attendre 1947, lors de restauration de la route, pour sauver le cœur roman, la salle capitulaire, la chapelle, les murs du cloître et la porte d'entrée. Je vais vous dire quelque chose. Les vieilles pierres parlent à ceux qui savent les entendre. Les hommes et les années passent, mais elles restent pour garder leurs souvenirs. C'est beau, c'est pas de moi, Anatole France. Et ici, elles ont beaucoup à raconter. Un peu d'histoire, changeons de sujet. Cette montagne catalane ne fut rattachée à la France qu'en 1659 par le traité des Pyrénées. Ici, depuis l'Antiquité jusqu'aux années 50, l'évolution ne s'est faite que très lentement. Par exemple, l'agriculture méditerranéenne a conservé des outils de labour pratiquement identiques. Sur des petites parcelles, pas forcément planes, en sol caillouteux, bêches et charrues ont bien du mal à s'imposer, face à la houe et à l'arrière. La différence entre charrue et arrière, la charrue verse que d'un seul côté, l'arrière verse des deux côtés. À la Révolution, le système métrique est adopté partout en France. Alors, je ne vous explique pas, le casse-tête des poids et mesures. Il fallut établir un tableau de correspondance entre les anciennes et celles qui deviennent légales. D'autant plus compliqué que le département des Pyrénées-Orientales était divisé en deux parties. D'une part, l'ancienne province du Roussillon, utilisant des mesures catalanes. De l'autre, les Fenouillèdes, qui appartenaient jusqu'en 1790 à la province du Languedoc, et donc des mesures languedociennes. Côté unité de surface, là-bas, on utilisait le journal. Il s'agissait au départ de la superficie qu'on pouvait labourer en un jour. Le problème, c'est qu'une terre accidentée se laboure beaucoup moins vite qu'une plaine. Et la valeur n'est donc pas partout identique. C'était pas simple. Une activité traditionnelle. Ici, depuis longtemps, on récoltait la bruyère pour faire du charbon de bois. Au XIXe siècle, le rhizome devient matière première pour fabriquer des pipes de bruyère très à la mode. Les cueilleurs vont redescendre des sacs de 90 à 120 kg sur le dos. Les rhizomes étaient lavés, traités, puis taillés en ébauches de pipes pour partir à Saint-Claude. Heureusement, il y a eu l'arrivée du train en 1875. Ça a été une évolution importante, justement pour cette expédition lointaine. Ce sont les campagnes anti-tabac qui ont eu raison de cette activité dans les années 60. Dans cette montagne, il était nécessaire, au XVIe, XVIIe siècle et même avant, de savoir vivre en autarcie, notamment avant l'arrivée de la médecine moderne. C'était le domaine où la mère de famille devait exceller. Alors je ne peux m'empêcher de donner une liste de recettes et de remèdes que j'ai trouvées dans mes recherches, parfois peu appétissantes, mais en usage. Alors contre les douleurs dentaires, il faut faire une décoction de vinaigre et de racines de jusquiame et les utiliser en bain de bouche. Faire cuire une tête d'ail qu'on placera sur la dent douloureuse. Les douleurs d'estomac se soignent en prenant des cendres chaudes, imbibé de vin, que l'on place sur la douleur. Bon, le chaud, pourquoi pas. Infection urinaire, se frotter avec du petit lait. Et toutes sortes de plaies. Alors là, c'est feuilles de plantain, mauve, verveine, saule, ainsi de suite. Ah, l'estopada, une sorte d'étoupe, à laquelle on ajoute du blanc d'œuf battu, des racines de consoude séchées et réduites en poudre. Ça forme une sorte de plâtre, utilisé pour souder et consolider les os. Pas si bête.
Ah ouais, hein.
Et puis la consoude, on sait très bien que c'est efficace contre tout ce qui est fracture et
voilà.
Pour les os.
Ah, mais ils connaissaient la nature. Hein.
Et oui. Donc la liste est longue. Hein. Et on comprend quand même que rien dans la nature n'est totalement inutile. Ni les poumons d'écureuil, ni la cervelle de lièvre, ni l'écorce de grenadier, le suc de plantain. Je doute un peu de l'efficacité de certains traitements, mais il est certain que ce sont des valeurs écologique indéniable. Pas question d'exterminer la moindre espèce animale ou végétale dont on aura un jour peut-être besoin.
On est d'accord.
Remontons sur le Cap-Cyr. Oh, surprise, du Vauban, la citadelle de Montlouis. Non, rien de surprenant à ce que Vauban crée une citadelle pour sécuriser la région à la suite du traité des Pyrénées, pour marquer l'ultime frontière vers le sud. Un carrefour stratégique, un point de surveillance. Il existait à l'époque une sorte d'impôt qu'on appelait le logement des gens de guerre. Selon les circonstances et dans l'intérêt de l'État, cette servitude sera supportée par la population. Encore même jusqu'au XIXe siècle, les trois circonstances donnant lieu à cette servitude étaient les voyages, l'état du cantonnement et la guerre. Les soldats avaient droit à une place autour du feu, la lumière et le lit. Afin de supprimer ce logement chez l'habitat gratuit, entraînant parfois des abus, les casernes de Montlouis avaient leur propre baraquement, pouvant ainsi accueillir jusqu'à 2500 hommes. Un progrès. Puisqu'on est à Montlouis, allons voir un four.
Four solaire.
Voilà. Dans les années 50, un four solaire expérimental de 50 kW fut construit à l'intérieur des remparts, à l'abri des curieux, pour y faire des expériences sur la résistance des métaux. C'est le premier four solaire au monde. Félix Trombe, bien connu par les spéléos, donc par nous,
effectivement,
fera de Montlouis le berceau de l'énergie solaire. Un grand miroir héliostat de 100 mètres carrés renvoie les rayons solaires vers une parabole qui les concentre en son foyer. Le miroir fait 50 mètres carrés. Au niveau du foyer de la parabole, la température peut atteindre 3500 degrés en quelques secondes et gratuitement. Une planche de bois s'enflamme en quelques secondes. Une plaque d'acier de plusieurs centimètres d'épaisseur fond en 30 secondes. Après plusieurs années, c'est Odeillo qui le remplacera avec une structure beaucoup plus importante. Ici, c'est en 1970 que le CNRS construit ce four, le plus grand du monde, 54 mètres de haut, 48 mètres de large, composé de 63 miroirs, sa puissance est de 1000 kW. Et c'était 50 kW le four solaire de Saint-Louis. Ne pas confondre four solaire et centrale solaire. La centrale de Témis, on la voit de loin, avec cette tour de plus de 100 mètres de hauteur, profite d'un ensoleillement de 2400 heures par an, une moyenne de 330 jours par an. L'altitude aussi favorise la réception du rayonnement, et ça a motivé en 1981 cette tour produire de l'électricité avec de l'énergie solaire. 201 miroirs orientés vers le soleil concentrent le rayonnement vers le haut d'une tour à 105 mètres de hauteur. Originalement, le projet prévoyait deux tours. Et puis ce sont les réductions budgétaires qui ont stoppé les travaux. La production durera 3 ans. Elle cessera son activité en 1983, le coût de production étant jugé trop élevé. La technique, chauffer de l'eau dans une chaudière. Si vous allez sur ma vidéo, vous allez voir la chaudière. C'est une cuve qui doit faire à peu près 4 mètres de côté et 1 mètre de profondeur. Donc l'eau est chauffée dans cette chaudière qui va produire de la vapeur, qui va faire tourner un générateur et produire du courant. Ce procédé est mis au point toujours par Félix Trombe. Il est stoppé, justement en 83, alors que l'Espagne a repris le système qui fonctionne actuellement encore.
Mais nous, il a été stoppé pour le lobby nucléaire qui a pris le relais.
Oui, c'est quelque chose comme ça. Tu as raison. On comprend que de toute façon, comme tu viens de le dire, les budgets et les recherches sont intimement liés au coût de l'énergie et en particulier à celui du pétrole et des politiques. Alors, à l'arrêt en 1983, l'État prévoyait un budget de 5 millions de francs pour une mise en état du site tel qu'il était originellement. Heureusement, le CNRS a réussi à convaincre grâce au projet de recherche de conserver la centrale et de la faire vivre. Maintenant, ce sont des études, un programme d'études sur les rayons gamma cosmiques qui permettent de la maintenir en activité. Tout autre chose, on en a parlé un petit peu au début, le Canary, train jaune, lui mis en service en 1910, qui a désenclavé tous ses plateaux. Aujourd'hui, il transporte 400 000 touristes par an et on permet de découvrir de gare en gare toute la vallée de la Tête. C'est le plus haut d'Europe à voie métrique et il a une longueur de 63 km. Ah, alors pour terminer, comme je vous ai dit que mon fil rouge, c'était les bains et les sources chaudes, on y arrive. Si vous êtes bain chaud naturel, voici pour vous. Il existe plusieurs résurgences à plus de 40 degrés en remontant la vallée du Tête. Plusieurs sont sulfureuses, situées en pleine montagne, atypiques et gratuites. En général, ces bains sont situés sur des terrains privés, je dis ça parce qu'il faut respecter le lieu.
Complètement.
Voilà. Alors vous avez à Thuès, vous avez plusieurs vasques, parce que Thuès est un centre de thalassothérapie. Mais si vous longez la voie ferrée, la petite voie du train jaune, vous la longez et vous arrivez à deux vasques. Ce n'est pas les plus jolies, ce n'est pas les plus intéressantes. Et surtout, ne traversez pas les rails qui sont électrifiés. C'est interdit et surtout, c'est dangereux. Alors, attention. Les plus jolies, pour moi, c'est à Prat-Balaguer. Après une vingtaine de minutes de marche, en pleine forêt, l'eau tombe en cascade dans 5 vasques, plus ou moins chaudes, bien sûr. Plus on s'éloigne, plus elles se refroidissent. Là aussi, c'est gratuit. l'eau sort à 78 degrés. Vous voyez cette brume au-dessus de l'eau qui monte. Alors, attention, sur la route, quand vous vous garez, garez-vous correctement, parce que ça va vous coûter plus cher que d'aller à la thalassothérapie, sinon. Voilà. Ce sont pratiquement les derniers bains chauds naturels existants dans les PO et les plus intéressants. J'en dis pas plus sur la localisation, vous chercherez, parce que je ne veux pas non plus qu'il y ait trop de monde. Ce sont des lieux qu'il faut garder un petit peu pour soi.
Secret.
Secret. Alors, vous en avez d'autres qui sont presque dans leur jus, mais quand même, ils se sont industrialisés. Vous avez ceux de Dore, de Saint-Thomas, et d'autres aussi qui ont été aménagés, payants, et surtout qui ont perdu le côté sauvage. À Canaveille, on les voit bien sur ma vidéo, et puis depuis le train jaune, ce sont des bains qui ont été médicalisés. L'activité s'est arrêtée, ils sont en ruine, après l'incendie de 1984. Mais si vous descendez à la rivière en dessous des bains, ancien bain de Canaveille, vous arrivez à la rivière, près de la source du Figuier, qui s'appelle, et là vous avez trois vasques plus ou moins chaudes, elles aussi. Et puis dans la série, en remontant la vallée, en remontant ou en descendant, à Axetherme, vous avez un bassin thermal, d'eau chaude aussi. Vous avez, ça c'est surprenant, le lavoir d'Allée-les-Bains, qui ne sert pas de lavoir, qui sert à baignade de pied.
On le voit dans ta vidéo, oui. On voit du monde.
Voilà, il y a du monde. Et vous avez les anciens bains de Rennes en bord de route. Si vous arrêtez, on voit les anciennes baignoires. Et aussi, ça c'est moins connu, à Mérens. Là encore, je te rejoins.
Dans mon livre.
Dans ton livre, qui s'appelle « Mille lieux légendaires et mystérieux des Pyrénées ». Francis Barrault.
Oula.
Alors donc, à Mérens, encore une légende autour de fées qui lavaient leur linge et en échange donnaient l'eau chaude gratuite. C'est ça, Francis ?
Oui, c'est ça.
En suivant le GR, 20 minutes, vous pouvez les apprécier cette curiosité de la nature constituée par quatre belles vasques, absolument sauvages. Surtout par rapport à ceux de Prat-Balaguer, il n'y a personne. C'est moins connu. L'eau est un peu moins chaude, mais bon, on peut faire une belle baignade.
Oui, surtout en hiver.
Ah oui, aussi, bien sûr. Et pour limiter la fréquentation, je ne donne pas davantage de détails ni sur les uns ni sur les autres. Allez maintenant voir les images de ma vidéo et puis une petite recherche sur Internet, vous trouverez tout ça facilement. Ma vidéo se termine par l'aquarelle de Nadine.
Oui, tout à fait, sur un étang.
Un étang au pied du Carlite.
Voilà.
Voilà. Alors ce petit bout du sud, le sud du sud, il t'a plu ?
Oui.
Et époustouflant quand même, c'est au plateau, rendre la montagne plus humaine. Parce que ce n'est pas des pics hérissés d'arêtes.
Non, beaucoup de pelouses, de prairies.
Voilà. Et puis le plus bel ensoleillement de France, c'est une montagne en douceur. Que dire de plus ? Tous ces lacs, ces pelouses fleuries offrent des paysages aussi pour les photographes. À couper le souffle.
Un petit mot sur un menhir géant que tu...
Alors, le menhir géant, pour te dire le nom exactement, c'est le menhir de Kounouzoul, en pleine forêt. Il n'est pas compliqué à trouver parce qu'il est à 20 mètres de la route. Mais c'est le plus haut, le plus grand du sud. Il fait 8,90 m de hauteur, plus la partie enterrée.
Voilà, donc cher auditeur, à ne pas manquer parce que c'est très rare un menhir aussi grand.
Voilà, oui, c'est ça.
Ouais. Et oui, c'est le plus grand, donc c'est très rare. Oui.
C'est le seul. On n'a pas la légende sur le menhir.
Non,
il doit bien exister, mais...
Trop mal serait dans mon livre. Non, c'est vrai.
Bon, que dire d'autre ?
Il n'y a pas de VTT dans ce secteur ?
Et il n'y en a pas eu.
Et alors ?
Bah, j'étais pas en forme.
Ah, d'accord. Le vélo ne fonctionnait pas.
Voilà. Et alors, le mois prochain... Je vous donne le titre à la bougeotte, So Nice. Voilà, si tu préfères, So Nice, si tu le veux en français. Et si tu le veux en anglais, c'est Si Joli. Voilà, donc on part du côté de Nice.
D'accord.
Pas trop sur Nice, parce que c'est pas un coin que j'aime beaucoup. Mais j'aime bien l'arrière-pays. On parlera plus de l'arrière-pays que de Nice.
Voilà, donc l'arrière-pays de Nice, qui est très beau d'ailleurs. Ouais, effectivement. Voilà.
Et surtout, la vallée de la Roya.
Donc rendez-vous...
Rendez-vous le mois prochain. Et en attendant,
bougez,
mais bougez en France, hein, bien sûr.
Bien sûr.
Voilà.
Merci Christian.
Merci
pour
Francis.
Cette belle émission.
Au revoir.
Au mois prochain.